Les enfants d'Édouard. Il a l'air d'un brigand, mon petit garçon, avec ses cheveux ébouriffés. Coiffez-le aux enfants d'Édouard, monsieur Valence. Monsieur Valence, à qui ma chère mère parlait de la sorte, était un vieux perruquier agile et boiteux, dont la seule vue me rappelait une odeur écœurante de fer chaud, et que je redoutais tant à cause de ses mains grasses de pommade que parce qu'il ne pouvait me couper les cheveux sans m'en laisser tomber dans le cou. Aussi, quand il me passait un peignoir blanc et qu'il me nouait une serviette autour du cou, je résistais et il me disait: Tu ne veux pourtant pas, mon petit ami, rester avec une chevelure de sauvage, comme si tu sortais du radeau de la Méduse. Il racontait à tout propos, de sa voix vibrante de méridionale, le naufrage de la Méduse, dont il n'avait échappé qu'après d'effroyables misères. Le radeau, les inutiles signaux de détresse, les repas de chair humaine, il disait tout cela avec la belle humeur de quelqu'un qui prend les choses par leur bon côté, car c'était un homme jovial, monsieur Valence. Ce jour-là, il m'accommoda trop lentement la tête à mon gré, et d'une façon que je jugeais bien étrange, dès que je pus me regarder dans la glace. Je vis alors les cheveux rabattus et taillés droits comme un bonnet au-dessus des sourcils et tombant sur les joues comme des oreilles d'épagneul. Ma mère était ravie. Valence m'avait véritablement coiffé aux enfants d'Édouard. Vêtue comme je l'étais d'une blouse de velours noir, on n'avait plus, disait-elle, qu'à m'enfermer dans la tour avec mon frère aîné. Si l'on ose, ajouta-t-elle en me soulevant dans ses bras avec une crânerie charmante. Et elle me porta étroitement embrassée jusqu'à la voiture, car nous allions en visite. Je lui demandai quel était ce frère aîné que je ne connaissais pas et cette tour qui me faisait peur. Et ma mère, qui avait la divine patience et la simplicité joyeuse des âmes dont la seule affaire en ce monde est d'aimer, me conta, dans un babil enfantin et poétique, comment les deux enfants du roi Édouard, qui étaient beaux et bons, furent arrachés à leur mère et étouffés dans un cachot de la tour de Londres par leur méchant oncle Richard. Elle ajouta, s'inspirant selon toute apparence d'une peinture à la mode, que le petit chien des enfants aboya pour les avertir de l'approche des meurtriers. Elle finit en me disant que cette histoire était très ancienne, mais si touchante et si belle qu'on ne cessait d'en faire des peintures et de la représenter sur les théâtres, et que tous les spectateurs pleuraient et qu'elle avait pleuré comme eux. Je dis à maman qu'il fallait être bien méchant pour la faire pleurer ainsi, elle et tout le monde. Elle me répondit qu'il y fallait au contraire une grande âme et un beau talent, mais je ne la compris pas. Je n'entendais rien alors à la volupté des larmes. La voiture nous arrêta dans l'île Saint-Louis, devant une vieille maison que je ne connaissais pas, et nous montâmes un escalier de pierre dont les marches usées et fendues me faisaient grise mine. Au premier tournant, un petit chien se mit à japper. C'est lui, pensai-je. C'est le chien des enfants d'Édouard. Et une peur subite, invincible, folle, s'empara de moi. Évidemment, cet escalier, c'était celui de la tour, et avec mes cheveux coupés en bonnet et ma blouse de velours, j'étais un enfant d'Édouard. On allait me faire mourir. Je ne voulais pas, je me cramponnais à la robe de ma mère en criant: Emmène-moi, emmène-moi, je ne veux pas monter dans l'escalier de la tour. Tais-toi donc, petit sot. Allons, allons, mon chéri, n'aie pas peur. Cet enfant est vraiment trop nerveux. Pierre, Pierre, mon petit bonhomme, sois raisonnable. Mais pendu à sa jupe raidie, crispée, je n'entendais rien. Je criais, je hurlais, j'étouffais. Mes regards pleins d'horreur nageaient dans les ombres animées par la peur féconde. À mes cris, une porte s'ouvrit sur le palier et il en sortit un vieux monsieur en qui, malgré mon épouvante et malgré son bonnet grec et sa robe de chambre, je reconnus mon ami Robin, Robin mon ami, qui m'apportait une fois la semaine des gâteaux secs dans la coiffe de son chapeau. C'était Robin lui-même, mais je ne pouvais concevoir qu'il fût dans la tour, ne sachant pas que la tour était une maison, et que cette maison étant vieille, il était naturel que ce vieux monsieur y habitât. Il nous tendit les bras avec sa tabatière dans sa main gauche et une pincée de tabac entre le pouce et l'index de la main droite. C'était lui. Entrez donc, chère dame. Ma femme va mieux, elle sera enchantée de vous voir. Mais maître Pierre, à ce qu'il me semble, n'est pas très rassuré. Est-ce notre petite chienne qui lui fait peur? Ici, Finette. J'étais rassurée, je dis. Vous demeurez dans une vilaine tour, monsieur Robin. À ces mots, ma mère me pinça le bras dans l'intention, que je saisis fort bien, de m'empêcher de demander un gâteau à mon ami Robin, ce que précisément j'allais faire. Dans le salon jaune de monsieur et madame Robin, Finette me fut d'un grand secours. Je jouai avec elle, et ceci me resta dans l'esprit qu'elle avait aboyé au meurtrier des enfants d'Édouard. C'est pourquoi je partageai avec elle le gâteau que monsieur Robin me donna. Mais on ne peut s'occuper longtemps du même objet, surtout quand on est un petit enfant. Mes pensées sautèrent d'une chose à l'autre, comme des oiseaux de branche en branche, puis se reposèrent de nouveau sur les enfants d'Édouard. M'étant fait à leur égard une opinion, j'étais pressé de la produire. Je tirai monsieur Robin par la manche. Dites donc, monsieur Robin, vous savez, si maman avait été dans la tour de Londres, elle apparaît empêcher le méchant oncle d'étouffer les enfants d'Édouard sous leur oreiller. Il me sembla que monsieur Robin ne comprenait pas ma pensée dans toute sa force, mais quand nous nous retrouvâmes seuls, maman et moi, dans l'escalier, elle m'éleva dans ses bras. « Monstre, que je t'embrasse !» La grappe de raisin. J'étais heureux, j'étais très heureux. Je me représentais mon père, ma mère et ma bonne comme des géants très doux, témoins des premiers jours du monde, immuables, éternels, uniques dans leur espèce. J'avais la certitude qu'ils sauraient me garder de tout mal et j'éprouvais près d'eux une entière sécurité. La confiance que m'inspirait ma mère était quelque chose d'infini. Quand je me rappelle cette divine, cette adorable confiance, je suis tentée d'envoyer des baisers au petit bonhomme que j'étais. Et ceux qui savent combien il est difficile en ce monde de garder un sentiment dans sa plénitude comprendront un tel élan vers de tels souvenirs. J'étais heureux. Mille choses, à la fois familières et mystérieuses, occupaient mon imagination. Mille choses qui n'étaient rien en elles-mêmes, mais qui faisait partie de ma vie. Elle était toute petite, ma vie, mais c'était une vie, c'est-à-dire le centre des choses, le milieu du monde. Ne souriez pas à ce que je dis là, ou n'y souriez que par amitié, et songez-y, quiconque vit, fût-il petit chien, est au milieu des choses. J'étais heureux de voir et d'entendre. Ma mère n'entr'ouvrait pas son armoire à glace sans me faire éprouver une curiosité fine et pleine de poésie. Qu'y avait-il donc dans cette armoire? Mon Dieu, ce qu'il pouvait y avoir! Du linge, des sachets d'odeurs, des cartons, des boîtes. Je soupçonne aujourd'hui ma pauvre mère d'un faible pour les boîtes. Elle en avait de toutes sortes et en prodigieuse quantité. Et ces boîtes, qu'il m'était interdit de toucher, m'inspiraient de profondes méditations. Mes jouets aussi faisaient travailler ma petite tête, du moins les jouets qu'on me promettait et que j'attendais, car ceux que je possédais n'avaient pour moi plus de mystère, portant plus de charme. Mais qu'ils étaient beaux, les joujoux de mes rêves. Un autre miracle, c'était la quantité de traits et de figures qu'on peut tirer d'un crayon ou d'une plume. Je dessinais des soldats, je faisais une tête ovale et je mettais un shako au-dessus. Ce n'est qu'après de nombreuses observations que je fis entrer la tête dans le shako jusqu'aux sourcils. J'étais sensible aux fleurs, aux parfums, au luxe de la table, aux beaux vêtements. Ma toque à plumes et mes bachinets me donnaient quelque orgueil. Mais ce que j'aimais plus que chaque chose en particulier, c'était l'ensemble des choses. La maison, l'air, la lumière, que sais-je, la vie enfin. Une grande douceur m'enveloppait. Jamais petit oiseau ne se frotta plus délicieusement au duvet de son nid. J'étais heureux, j'étais très heureux. Pourtant, j'enviais un autre enfant. Il se nommait Alphonse. Je ne lui connaissais pas d'autre nom, et il est fort possible qu'il n'eût que celui-là. Sa mère était blanchisseuse et travaillait en ville. Alphonse vaguait tout le long de la journée dans la cour ou sur le quai, et j'observais de ma fenêtre son visage barbouillé, sa tignasse jaune, sa culotte sans fond et ses savates qui traînaient dans les ruisseaux. J'aurais bien voulu, moi aussi, marcher en liberté dans les ruisseaux. Alphonse hantait les cuisinières et gagnait près d'elle force gifles et quelques vieilles croûtes de pâté. Parfois, les palefreniers l'envoyaient puiser à la pompe un seau d'eau qu'il rapportait fièrement, avec une face cramoisie et la langue hors de la bouche. Et je l'enviais. Il n'avait pas, comme moi, des fables de La Fontaine à apprendre. Il ne craignait pas d'être grondé pour une tache à sa blouse, lui. Il n'était pas tenu de dire bonjour monsieur, bonjour madame à des personnes dans les jours et les soirs, bons ou mauvais, ne l'intéressaient pas du tout. Et s'il n'avait pas, comme moi, une arche de Noé et un cheval à mécanique, il jouait à sa fantaisie avec les moineaux qu'il attrapait, les chiens errants comme lui, et même les chevaux de l'écurie jusqu'à ce que le cocher l'envoyât dehors à coups de balai. Il était libre et hardi. De la cour, son domaine, il me regardait à ma fenêtre comme on regarde un oiseau en cage. Cette cour était gaie à cause des bêtes de toute espèce et des gens de service qui la fréquentaient. Elle était grande. Le corps de logis qui la fermait au midi était tapissé d'une vieille vigne noueuse et maigre, au-dessus de laquelle était un cadran solaire dont le soleil et la pluie avaient effacé les chiffres, et cette aiguille d'ombre qui coulait insensiblement sur la pierre m'étonnait. De tous les fantômes que j'évoque, celui de cette vieille cour est un des plus étranges pour les Parisiens d'aujourd'hui. Leurs cours ont 4 mètres carrés. On peut y voir un morceau du ciel, grand comme un mouchoir, par-dessus 5 étages de garde-manger en surplomb. C'est là un progrès, mais il est malsain. Il advint un jour que cette cour si gaie, où les ménagères venaient le matin emplir leurs cruches à la pompe, et où les cuisinières secouaient vers 6 heures leur salade dans un panier de laiton, en échangeant des propos avec les palefreniers, il advint que cette cour fut dépavée. On ne la dépavait que pour la repaver. Mais comme il avait plu pendant les travaux, elle était fort boueuse, et Alphonse, qui vivait comme un satyre dans son bois, était de la tête aux pieds de la couleur du sol. Il remuait les pavés avec une joyeuse ardeur. Puis, levant la tête et me voyant murer là-haut, il me fit signe de venir. J'avais bien envie de jouer avec lui à remuer les pavés. Je n'avais pas de pavés à remuer dans ma chambre, moi. Il se trouva que la porte de l'appartement était ouverte. Je descendis dans la cour. Me voilà, dis-je à Alphonse. Porte ce pavé, me dit-il. Il avait l'air sauvage et la voix rauque. J'obéis. Tout à coup, le pavé me fut arraché des mains et je me sentis enlevé de terre. C'était ma bonne qui m'emportait indignée. Elle me lava au savon de Marseille et me fit honte de jouer avec un polisson, un rôdeur, un vaurien. Alphonse, ajouta ma mère, Alphonse est mal élevé. Ce n'est pas sa faute, c'est son malheur. Mais les enfants bien élevés ne doivent pas fréquenter ceux qui ne le sont pas. J'étais un petit enfant très intelligent et très réfléchi. Je retins les paroles de ma mère, et elles s'associèrent, je ne sais comment, à ce que j'appris des enfants maudits en me faisant expliquer ma vieille Bible en estampes. Mes sentiments pour Alphonse changèrent tout à fait. Je ne l'enviais plus, non. Il m'inspirait un mélange de terreur et de pitié. Ce n'est pas sa faute, c'est son malheur. Cette parole de ma mère me troublait pour lui. Vous fîtes bien, maman, de me parler ainsi. Vous fîtes bien de me révéler, dès l'âge le plus tendre, l'innocence des misérables. Votre parole était bonne. C'était à moi à la garder présente dans la suite de ma vie. Pour cette fois du moins, elle eut son effet et je m'attendrai sur le sort de l'enfant maudit. Un jour, tandis qu'il tourmentait dans la cour le perroquet d'une vieille locataire, je contemplais ce Caïn, sombre et puissant, avec toute la componction d'un bon petit Abel. C'est le bonheur, hélas, qui fait les Abels. Je m'ingéniais à donner à l'autre un témoignage de ma pitié. Je songeais à lui envoyer un baiser, mais son visage farouche me parut peu propre à le recevoir, et mon cœur se refusa à ce don. Je cherchai longtemps ce que je pourrais bien donner. Mon embarras était grand. Donner à Alphonse mon cheval mécanique, qui précisément n'avait plus ni queue ni crinière, me parut toutefois excessif. Et puis est-ce bien par le don d'un cheval qu'on marque sa pitié? Il fallait un présent convenable à un maudit. Une fleur peut-être. Il y avait des bouquets dans le salon. Mais une fleur, cela ressemble à un baiser. Je doutais qu'Alphonse aimât les fleurs. Je fis, dans une grande perplexité, le tour de la salle à manger. Tout à coup, je frappai joyeusement dans mes mains. J'avais trouvé! Il y avait sur le buffet, dans une coupe, de magnifiques raisins de Fontainebleau. Je montai sur une chaise et pris de ces raisins une grappe longue et pesante qui remplissait la coupe aux trois quarts. Les grains d'un vert pâle étaient dorés d'un côté et l'on devait croire qu'ils fondraient délicieusement dans la bouche. Pourtant, je n'y goûtais pas. Je courus chercher un peloton de fil dans la table à ouvrage de ma mère. Il m'était interdit d'y rien prendre, mais il faut savoir désobéir. J'attachai la grappe au bout d'un fil et, me penchant sur la barre de la fenêtre, j'appelai Alphonse et fis descendre lentement la grappe dans la cour. Pour la mieux voir, l'enfant maudit écarta de ses yeux les mèches de ses cheveux jaunes. Et quand elle fut à portée de son bras, il l'arracha avec le fil. Puis, relevant la tête, il me tira la langue, me fit un pied de nez et s'enfuit avec la grappe en me montrant son derrière. Mes petits amis ne m'avaient pas accoutumé à ces façons. J'en fus d'abord irrité, mais une considération me calma. J'ai bien fait, pensai-je, de n'envoyer ni une fleur ni un baiser. Ma rancune s'évanouit à cette pensée, tant il est vrai que, quand l'amour-propre est satisfait, le reste importe peu. Toutefois, à l'idée qu'il faudrait confesser mon aventure à ma mère, je tombai dans un grand abattement. J'avais tort. Ma mère me gronda, mais avec de la gaieté. Je le vis à ses yeux qui riaient. « Il faut donner son bien et non celui des autres, me dit-elle, et il faut savoir donner. C'est le secret du bonheur, et peu le savent, ajouta mon père. Il le savait, lui. »
Je suis à mon tour
Marcel aux yeux d'or.
Quand le vieux soleil
j'avais 5 ans,
la
et je me faisais du monde une idée
siècle.
Que j'ai dû changer depuis. C'est dommage. Elle était charmante. Un jour, tandis que j'étais occupée à dessiner des bonshommes, ma mère m'appela sans songer qu'elle me dérangeait. Les mères ont de ces étourderies. Cette fois, il s'agissait de me faire ma toilette. Je n'en sentais pas la nécessité et j'en voyais le désagrément. Je résistais, je faisais des grimaces, j'étais insupportable. Ma mère me dit « Ta marraine va venir, ce serait joli si tu n'étais pas habillée. » Ma marraine! Je ne l'avais pas encore vue, je ne la connaissais pas du tout, je ne savais même pas qu'elle existât. Mais je savais très bien ce que c'est qu'une marraine. Je l'avais lue dans les contes et vue dans les images. Je savais qu'une marraine est une fée. Je me laissai peigner et savonner tant qu'il plut à ma chère maman. Je songeais à ma marraine avec une extrême curiosité de la connaître. Mais bien que grand questionneur d'ordinaire, je ne demandais rien de tout ce que je brûlais de savoir. « Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? Ah, c'est que je n'osais, c'est que les fées, telles que je les comprenais, voulaient le silence et le mystère. » C'est qu'il est dans les sentiments un vague si précieux que l'âme la plus neuve en ce monde est par instinct jalouse de le garder. C'est qu'il existe pour l'enfant comme pour l'homme des choses ineffables. C'est que sans l'avoir connue, j'aimais ma marraine. Je vais bien vous surprendre, mais la vérité a parfois heureusement quelque chose d'imprévu qui la rend supportable. Ma marraine était belle à souhait. Quand je la vis, je la reconnus. C'était bien celle que j'attendais, c'était ma fée. Je la contemplais sans surprise, ravie. Pour cette fois, et par extraordinaire, la nature égalait les rêves de beauté d'un petit enfant. Ma marraine me regarda. Elle avait des yeux d'or. Elle me sourit, et je lui vis des dents aussi petites que les miennes. Elle parla, sa voix était claire et chantait comme une source dans les bois. Elle me baisa, ses lèvres étaient fraîches. Je les sens encore sur ma joue. Je goûtais à la voir une infinie douceur, et il fallait, paraît-il, que cette rencontre fût charmante de tout point, car le souvenir qui m'en reste est dégagé de tout détail qui l'eût gâté. Il apprit une simplicité lumineuse. C'est la bouche entr'ouverte pour un sourire et pour un baiser, debout, les bras ouverts, que m'apparaît invariablement ma marraine. Elle me souleva de terre et me dit « Trésor, laisse-moi voir la couleur de tes yeux. » Puis, agitant les boucles de ma chevelure, « Il est blond, mais il deviendra brun. » Ma fée connaissait l'avenir. Pourtant, ses prédictions indulgentes ne l'annonçaient pas tout entier. Mes cheveux, aujourd'hui, ne sont plus ni blonds ni noirs. Elle m'envoya le lendemain des joujoux qui ne me parurent pas faits pour moi. Je vivais avec mes livres, mes images, mes pots de colle, mes boîtes de couleurs et tout mon attirail de petits garçons intelligents et chétifs, déjà sédentaires, qui s'initiaient naïvement par ces jouets à ce sentiment des formes et des couleurs, cause de tant de douleurs et de joie. Les présents choisis par ma marraine n'entraient pas dans ses mœurs. C'était un mobilier complet de sport boy et de petits gymnastes à trapèze, cordes, barres, poids, haltères, tout ce qu'il faut pour exercer la force d'un enfant et préparer la grâce virile. Par malheur, j'avais déjà pris le pli du bureau, le goût des découpures faites patiemment le soir à la lampe, le sens profond des images, et quand je sortais de mes amusements d'artiste prédestiné, c'était par des coups de folie, par une rage de désordre, pour jouer éperdument à des jeux sans règles, sans rythme, aux voleurs, aux naufrages, à l'incendie. Tous ces appareils de buis vernis et de fer me parurent froids, lourds, sans caprice et sans âme, jusqu'à ce que ma marraine y eût mis, en m'enseignant l'usage un peu de son charme. Elle soulevait les artères avec beaucoup de crânerie, et portant les coudes en arrière, elle me montrait comment les barres, passées sur le dos et sous le bras, développent la poitrine. Un jour, elle me prit sur ses genoux et me promit un bateau avec tous ses gréements, toutes ses voiles et des canons au sabord. Ma marraine parlait marine comme un loup de mer. Elle n'oubliait ni une, ni dunette, ni auban, ni perroquet, ni cacatois. Elle n'en finissait point avec ces mots étranges et elle mettait comme de l'amitié à les dire. Il lui rappelait sans doute bien des choses. Une fée, cela va sur les eaux. Je ne l'ai pas reçu, ce bateau, mais je n'ai jamais eu besoin, même en bas âge, de posséder les choses pour en jouir, et le bateau de la fée m'a occupé bien des heures. Je le voyais, je le vois encore. Ce n'est plus un jouet, c'est un fantôme. Il coule en silence sur une mer brumeuse, et j'aperçois à son bord une femme immobile, les bras inertes, les yeux grands et vides. Je ne devais plus revoir ma marraine. J'avais dès lors une idée juste de son caractère. Je sentais qu'elle était née pour plaire et pour aimer, que c'était là son affaire en ce monde. Je ne me trompais pas, hélas. J'ai su depuis que Marcel, elle se nommait Marcel, n'a jamais fait que cela. C'est bien des années plus tard que j'appris quelque chose de sa vie. Marcel et ma mère s'étaient connus au couvent. Mais ma mère, plus âgée de quelques années, était trop sage et trop mesurée pour devenir la compagne assidue de Marcel, qui mettait dans ses amitiés une ardeur extraordinaire et une sorte de folie. La jeune pensionnaire, qui inspira à Marcel les sentiments les plus extravagants, était la fille d'un négociant, une grosse personne calme, moqueuse et bornée. Marcel ne la quittait pas des yeux, fondée en larmes pour un mot, pour un geste de son ami, l'accablait de serments, lui faisait toutes les heures des scènes de jalousie et lui écrivait à l'étude des lettres de 20 pages, tant qu'enfin la grosse fille, impatientée, déclara qu'il y en avait assez et qu'elle voulait être tranquille. La pauvre Marcel se retira si abattue et si triste qu'elle fit pitié à ma mère. C'est alors que commença leur liaison, peu de temps avant que ma mère sortît du couvent. Elles promirent de se rendre visite et tinrent parole. Marcel avait pour père le meilleur homme du monde, charmant, avec bien de l'esprit et pas le sens commun. Il quitta la marine sans motif après 20 ans de navigation. On s'en étonnait. Il fallait s'étonner qu'il fût resté si longtemps au service. Sa fortune était médiocre, et son économie détestable. Regardant par sa fenêtre un jour de pluie, il vit sa femme et sa fille à pied, fort embarrassés de leurs jupes et de leur en tout cas. Il s'aperçut pour la première fois qu'elle n'avait point de voiture, et cette découverte le chagrina beaucoup. Sur-le-champ, il réalisa ses valeurs, vendit les bijoux de sa femme, emprunta de l'argent à divers amis et courut à Bade. Comme il avait une martingale infaillible, il joua gros jeu à l'effet de gagner chevaux, carrosses et livrées. Au bout de 8 jours, il rentra chez lui sans un sou et croyant plus que jamais à sa martingale. Il lui restait une petite terre dans l'abri où il éleva des ananas. Après un an de cette culture, il dut vendre le fonds pour payer les serres. Alors, il se jeta dans des inventions de machines et sa femme mourut sans qu'il y prît garde. Il envoya aux ministres, aux chambres, à l'institut, aux sociétés savantes, à tout le monde des plans et des mémoires. Ces mémoires étaient quelquefois rédigés en vers. Pourtant, il se faisait quelque argent. Il vivait. C'était miraculeux. Marcel trouvait cela simple et achetait des chapeaux avec toutes les pièces de 100 sous qui lui tombaient sous la main. Pour jeune fille qu'elle était alors, ma mère ne comprenait pas la vie de cette façon, et Marcel la faisait trembler. Mais elle aimait Marcel. « Si tu savais, m'a dit 100 fois ma mère, si tu savais comme elle était charmante alors ?»« Ah, chère maman, je l'imagine bien. » Il y eut pourtant une brouille entre elles, et la cause en fut un sentiment délicat qu'il ne faudrait point laisser dans l'ombre où l'on cache les fautes de ceux qui nous sont chers, mais que je ne dois pas analyser, moi, comme tout autre pourrait le faire. « Je ne le dois pas, dis-je, et je ne le puis non plus. » n'ayant sur ce sujet que des indices extrêmement vagues. Ma mère était alors fiancée à un jeune médecin qui l'épousa peu après et devint mon père. Marcel était charmante, on vous l'a dit assez. Elle inspirait et respirait l'amour. Mon père était jeune. Ils se voyaient, se parlaient. Que sais-je encore? Ma mère se maria et ne revit plus Marcel. Mais après 2 ans d'exil, la belle aux yeux d'or eut son pardon. Elle eut si bien qu'on la pria d'être ma marraine. Dans l'intervalle, elle s'était mariée. Cela, je pense, avait beaucoup aidé au raccommodement. Marcel adorait son mari, un monstre de petit moricaud qui naviguait depuis l'âge de 7 ans sur un navire de commerce et que je soupçonne véhémentement d'avoir fait la traite des Noirs. Comme il possédait des biens à Rio de Janeiro, il y emmena ma marraine. Ma mère m'a dit souvent, « Tu ne peux te figurer ce qu'était le mari de Marcel, un magot, un singe habillé de jaune des pieds à la tête. Il ne parlait aucune langue, il savait seulement un peu de toutes et s'exprimait par des cris, des gestes et des roulements d'yeux. Pour être juste, il avait des yeux superbes. « Et ne crois pas, mon enfant, qu'il fût des îles, » ajoutait ma mère. « Il était français, natif de Brest et se nommait Dupont. » Il faut vous apprendre, en passant, que ma mère disait « les îles » pour tout ce qui n'est pas l'Europe, et cela désespérait mon père, auteur de divers travaux d'ethnographie comparée. Marcel, poursuivait ma mère, Marcel était folle de son mari. Dans les premiers temps, on avait toujours l'air de les gêner en allant les voir. Elle fut heureuse pendant 3 ou 4 ans. Je dis heureuse parce qu'il faut tenir compte des goûts, mais pendant le voyage qu'elle fit en France, tu ne te rappelles pas, tu étais trop petit. Oh, maman, je me rappelle parfaitement. Eh bien, pendant ce voyage, son moricaud prit là-bas, dans les îles, d'horribles habitudes. Il s'enivrait dans les cabarets de matelots avec des créatures. Il reçut un coup de couteau. Au premier avis qu'elle en eut, Marcel s'embarqua. Elle soigna son mari avec cette ardeur superbe qu'elle mettait à tout. Mais il eut un vomissement de sang et mourut. Marcel n'est-elle pas revenue en France? Maman, pourquoi n'ai-je pas revu ma marraine? À cette question, ma mère répondit avec embarras. Étant veuve, elle connut à Rio de Janeiro des officiers de marine qui lui firent grand tort. Il ne faut pas penser du mal de Marcel, mon enfant. C'est une femme à part, qui n'agissait pas comme les autres. Mais il devenait difficile de la recevoir. Maman, je ne pense pas du mal de Marcel. « Dites-moi seulement ce qu'elle est devenue. » Mon fils, un lieutenant de vaisseau Léma, ce qui était bien naturel, et l'a compromis parce qu'une si belle conquête flattait son amour-propre. Je ne te le nommerai pas, il est aujourd'hui contre-amiral et tu as dîné plusieurs fois avec lui.
Quoi? C'est V, ce gros homme rougeau? Eh bien, maman, il raconte de jolies histoires de femmes après dîner, cet amiral-là.
Marcel l'aima à la folie. Elle le suivait partout. Tu conçois, mon enfant, que je ne sais pas très bien cette histoire-là.
Mais elle finit d'une façon terrible. Ils étaient tous deux en Amérique. Je ne puis te dire exactement en quel endroit, parce que je n'ai jamais pu retenir les noms de la géographie. S'étant lassé d'elle, il la quitta sous quelque prétexte et revint en France. Tandis qu'elle l'attendait là-bas, elle apprit par un petit journal de Paris qu'il se montrait au théâtre avec une actrice. Elle n'y put tenir, et bien que souffrant de la fièvre, elle s'embarqua. Ce fut son dernier voyage. Elle mourut à bord, mon enfant, et ta pauvre marraine, cousue dans un drap, fut jetée à la mer.
Voilà ce que m'a conté ma mère. Je n'en sais pas davantage. Mais chaque fois que le ciel est d'un gris tendre et que le vent a des plaintes douces, ma pensée s'envole vers Marcel et je lui dis « Pauvre âme en peine, pauvre âme errant sur l'antique océan qui berça les premiers amours de la terre, cher fantôme, à ma marraine et ma fée, sois bénie par le plus fidèle de tes amoureux, par le seul peut-être qui se souvienne encore de toi. Sois bénie pour le don que tu as mis sur mon berceau en t'y penchant seulement. Sois bénie pour m'avoir révélé, quand je naissais à peine à la pensée, les tourments délicieux que la beauté donne aux âmes avides de la comprendre. Sois bénie par celui qui fut l'enfant que tu soulevas de terre pour chercher la couleur de ses yeux. Il fut cet enfant le plus heureux et, j'ose dire, le meilleur de tes amis. C'est à lui que tu donnas le plus grand, ah, généreuse femme, car tu lui ouvris avec tes deux bras le monde infini des rêves. »
Note écrite à l'aube. Voilà la moisson d'une nuit d'hiver, ma première gerbe de souvenirs. La laisserai-je aller au vent? Ne vaut-il pas mieux la lier et la porter à la grange? Elle sera, je crois, une bonne nourriture pour les esprits. Le meilleur et le plus savant des hommes, monsieur Littré, aurait voulu que chaque famille eût ses archives et son histoire morale. Depuis, a-t-il dit, qu'une bonne philosophie m'a enseigné à estimer grandement la tradition et la conservation, j'ai bien des fois regretté que durant le Moyen-Âge, des familles bourgeoises n'aient pas songé à former de modestes registres, où seraient consignés les principaux incidents de la vie domestique, et qu'on se transmettrait tant que la famille durerait. Combien curieux seraient ceux de ces registres qui auraient atteint notre époque, quelque succinctes qu'en fussent les notices. Que de notions et d'expériences perdues, qui auraient été sauvées par un peu de soin et d'esprit de suite. Eh bien, je réaliserai pour ma part le désir du sage vieillard, ceci sera gardé, et commencera le registre de la famille Nozière. Ne perdons rien du passé, ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir.